Ceci est un balado du Centre national des arts.
Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez Plus que du théâtre.
Sur une falaise saillante à l'extérieur de la ville de Marseille, s'élevait un monastère des plus sinistres. Pour l'œil crédule, sa façade sans fenêtre suggérait une simplicité propice à de modestes vénérations, mais la vraie raison de son austérité était bien plus grave.
Bienvenue à cette troisième saison de la balado-diffusion du théâtre français du CNA, Plus que du théâtre. Aujourd'hui, une discussion sur le rôle de l'artiste en société, la censure et la moralité avec Robert Lepage.
Et qu'en est-il de son esprit?
Lepage, qui a été directeur artistique du théâtre français de 89 à 93, ouvre la saison 2018-2019 avec Quills, une traduction de la pièce de Doug Wright, créée en 1995 aux États-Unis.
Je crains cependant de devoir placer une certaine censure à votre plume, cher marquis.
Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Et nul ne peut rivaliser avec un maniaque en matière d'invention.
C'est une des rares occasions de voir Robert Lepage interpréter le texte d'un autre auteur. Je lui ai demandé ce qui l'a interpellé dans Quills.
Ben moi, c'est sûr que c'est un film. Je ne savais pas que c'était une pièce de théâtre au départ. Moi, je pensais que c'était un film, c'est ça, que j'avais beaucoup aimé, c'est un film qui m'avait beaucoup intéressé, tout ça. Je n'avais jamais pensé un jour jouer là-dedans ou adapter ça ou faire quoi que ce soit. Et c'est Jean-Pierre Cloutier, qui est un jeune comédien de Québec à l'époque, bon, qui avait été très, très frappé pour toutes sortes de raisons personnelles, par ce film-là. Et son rêve, ça avait été d'essayer d'en faire une adaptation théâtrale. Bon, alors, on était tous les deux très naïfs parce qu'on ne savait pas à ce moment-là qu'on n'avait pas pris le temps de regarder dans les crédits comme il faut, parce que dans les crédits, au début du film, et en français et en anglais, ça dit d'après l'œuvre théâtrale de Doug Wright.
Qui a aussi signé l'adaptation pour le scénario.
C'est ça. Donc, on a découvert ça sur le tard, qu'il y avait en fait une... Bon, et Jean-Pierre, lui, il y a quelques années, il avait déjà essayé de transcrire toutes les répliques, puis essayer d'en faire une adaptation, puis tout ça. Et là, je lui ai dit, ben écoute, Jean-Pierre, je pense qu'il y a une pièce de théâtre qui existe, qui s'appelle Quills, puis on va se la procurer, on va regarder. Puis finalement, bon, c'est quand même une pièce assez importante, pas Broadway, mais ils ont joué Off-Broadway, puis ils ont gagné des prix, tout ça. Puis Doug Wright, plus tard, est devenu un prix Pulitzer, avec une pièce qui a été jouée ici au CNA, d'ailleurs, du côté anglais, il y a longtemps, qui s'appelait I Am My Own Wife.
Début des années 2000, en fait.
Ouais, c'est ça. Avec Stephen Wimmett, puis bon, alors, qui est une autre grande pièce de Doug Wright. Alors là, tout à coup, on s'est intéressé à ça et on s'est rendu compte que la pièce était beaucoup plus hardcore à toutes sortes de niveaux que le film, que finalement, le film avait été. Bon, il est bien le film, on s'est rendu compte qu'il était comme un peu édulcoré,
ouais.
À comparer à la pièce.
Ben, c'est Hollywood,
Hollywood, puis oui, ça l'est, puis ça ne l'est pas en même temps, parce que parfois Hollywood se permet de prendre des risques.
C'est vrai, de choquer.
Il y avait quand même de grands risques, là. Mais c'était très star power driven. Hein, c'était avec Jeffrey Rush, puis
Joaquin
Phoenix, puis
Kate Winslet,
ouais. C'est ça, qui venait tout juste de faire le Titanic, quelque chose comme ça. Bon, alors ce qui fait que c'était étonnant. C'était vraiment une description étonnante, un film étonnant, des risques, tout ça, mais ça n'arrivait pas à la cheville de ce que la pièce, elle, exige. Alors, c'est sûr qu'on est resté bête, puis on s'est fait, bon, est-ce qu'on a le courage de faire ça? Alors, Jean-Pierre, lui, comme il n'avait jamais vraiment traduit de pièces de l'anglais au français, tout ça, bon, il a fallu quand même travailler fort pour convaincre les agents de Doug Wright et tout ça, bon, qu'on avait ce qu'il fallait pour faire notre version. Et là, Jean-Pierre a travaillé très fort. Moi, je lui ai même procuré un dictionnaire franco-anglais, de traduction franco-anglais, qui datait de l'époque de Napoléon, parce qu'il y a plein de mots, d'ailleurs, dans la pièce, et c'est ça qui est agréable et en même temps extrêmement difficile pour un acteur de prononcer des mots qui n'existent plus dans le vocabulaire ou des choses des versions... si on veut, une compréhension de l'anglais à l'époque de Napoléon, donc qui n'était pas nécessairement la même d'aujourd'hui, tout ça. Donc, il y a ce travail-là qui a été fait de traduction, qui a duré quand même un bon moment. Et on a fait des workshops à travers ça, plusieurs workshops. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un potentiel. Lui, Jean-Pierre, il voulait jouer le rôle du jeune abbé. Mm-hmm. Et moi, c'est sûr que le rôle du Marquis de Sade, ça me plaisait beaucoup, ça me parlait. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une chose qui me... c'est très facile pour moi de jouer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pourtant, je ne pense pas qu'il y a en moi un Marquis de Sade, mais il y a quand même une personne morale, une personne qui a des préoccupations sociales, qui a une fantasmagorie sexuelle, bon, peut-être un peu trop développée. Bon, il y a tout ça. Alors, je me suis reconnu beaucoup, beaucoup, moi, dans le rôle du Marquis, tel que décrit dans Quills. Alors, ceci dit, il faut se comprendre, c'est que le Marquis de Sade, qu'on retrouve dans Quills, ressemble beaucoup au Marquis de Sade dans la vie, là, celui qui a existé au début du 19e siècle. Mais alors, il y a beaucoup de noms sont les mêmes noms, puis beaucoup de choses sont semblables, le contexte politique est le même, tout ça. Mais le destin du personnage n'a rien à voir avec la réalité. C'est pourquoi les Français, quand on a joué en France, eux autres, ça leur fait quand même tout drôle. Alors, là, c'est un Américain qui a écrit la pièce. Alors,
ils voulaient que les Français voulaient que ce soit fidèle au destin?
Pas nécessairement, mais c'est comme si nous, on décidait de prendre... je sais pas, une œuvre de Michel Tremblay et qu'on fait l'apologie de Michel Tremblay et qu'un étranger dit, ben voici, tout à coup, dans le milieu de la vie de Michel Tremblay, on décide qu'on le torture, qu'on lui coupe les bras, la langue, et tu vois, on ferait, oh, attends un peu, c'est pour ça que c'est passé. Ah, c'est ça, mais c'est une métaphore. Donc, le Marquis de Sade est utilisé plus comme une espèce de métaphore symbolique là, pour parler de l'époque, pour parler de la censure, pour parler de... le muselage d'un artiste.
Mais parce que c'était ça, à la base, l'intention de Doug Wright, d'écrire Quills au début des années 90, dans ouais. l'opposition conservatrice aux arts. Il le dit très clairement là, en écrivant sur la pièce. J'ai écrit ça, entre autres, en réaction à l'exposition du photographe Robert Mapplethorpe.
Oui. Mais il y avait pire que ça. Je ne devrais pas dire pire, c'est un jugement de valeur, mais il y avait d'autres expositions. Robert Mapplethorpe, parce que c'était la grande vedette. Alors, c'est sûr que les gens se rappellent, ah, il y a eu une censure. Robert Mapplethorpe, l'exposition a été censurée. Mais avant lui, il y avait eu d'autres artistes importants. Il y en a un qui s'appelait Serrano, qui avait fait une exposition. C'était les photos d'icônes religieuses qui photographiaient dans de l'urine. Et tu ne savais pas que c'était de l'urine. Il faisait ça parce que, bon, ça donnait aux icônes religieuses une espèce de beauté. La lumière passait dans l'urine et ça créait des espèces de on voyait la Sainte Vierge qui priait dans un jet de lumière dorée et tout ça. Et c'était magnifique, mais on ne savait pas quels étaient les matériaux utilisés. Sauf qu'il y a une de ses œuvres qui s'appelait « Peace Christ ». Et c'est un crucifix dans un bocal d'urine. Alors ça, évidemment, ça a fait hurler toute la droite américaine, les gens qui, depuis longtemps, le National Endowment for the Arts a été critiqué pour avoir donné de l'argent à ça. Et bon, alors il y avait lui et plusieurs autres artistes. Alors c'était un mouvement, c'était pas juste Robert Mapplethorpe. Il y avait un mouvement à ce moment-là aux États-Unis où on essayait de censurer les artistes, de dire que bon, la morale avait changé et qu'il fallait revenir à des valeurs des années 50 ou 60. Donc, on sait que ça n'a pas nécessairement changé, mais bon, surtout aux États-Unis.
Le Marquis, dans le texte, parle de faire éclater les fausses conventions. Ouais. Est-ce que le contexte de rectitude politique actuelle est un moteur de création? Est-ce que c'est un moteur d'inspiration pour les artistes?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que une chose qui est intéressante, c'est que le spectacle prend un sens différent aujourd'hui. On s'en rend compte en disant les mots sur scène que par rapport à ce qui s'est passé cet été, par exemple, par rapport à tout cette bon, pas juste cette rectitude politique.
Mais les notions d'appropriation culturelle.
Tout ça. Bon. Alors, ce qui fait que la société maintenant dicte une certaine morale avec laquelle moi je suis plutôt d'accord. Je suis d'accord avec la plupart des... Moi, je suis absolument pour les mouvements de hashtag MeToo, toutes ces choses-là. Absolument. Les droits des Autochtones, je suis contre le racisme, je suis contre tout ça. Sauf que une rectitude politique, ça vient aussi des fois avec des débordements. Et c'est ces débordements-là qu'il faut signaler et c'est ces débordements-là qu'il faut empêcher parce que tout à coup, ça devient des dogmes. Et elle est là, la nouvelle morale. Alors, moi, je dis... Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, puis je vais peut-être encore m'attirer les foudres de certains groupes, mais c'est qu'à l'époque du refus global, hein, en 1949, les artistes en avaient marre de se faire dicter ce qu'ils pouvaient faire et pas faire. Ben, à l'époque, c'était l'Église qui faisait ça. Il n'y a aucun artiste dans les signataires du refus global qui était d'accord avec les assassinats, avec le mensonge, le vol, tout ça. Tout le monde croyait à la morale... qui nous avait été dicté par les 10 commandements, même si la plupart de ces gens-là étaient athées. Ça ne veut pas dire qu'on était contre la morale de l'Église, mais on était contre les dogmes de l'Église. Et c'était ça, les signataires du refus global. Moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut aller vers un nouveau refus global, bon, bien que ça se concrétise pas, c'est pas encore assez alarmant, si on veut, là, pour vraiment le faire. Mais je disais, à un moment donné, il faudra que les artistes se regroupent et disent, écoutez, on est d'accord avec tous les préceptes qui sont là. On est plutôt gauchisants, nous aussi. Sauf qu'il ne faut pas que ça devienne des dogmes. Et il faut refuser tous les dogmes. Et c'est ça un peu. Alors, c'est sûr que dans la pièce, moi, quand je dis... à un moment donné, là, on me dit que, bon, on veut plus que mon personnage écrive. Je dis pourquoi? Parce que je ne réponds pas au goût du jour. Hein, le Marquis de Sade dit beaucoup de choses que tout à coup résonnent... différemment aujourd'hui. Mm-hmm. C'est sûr que quand je dis des choses comme l'adversité, c'est toujours dans l'adversité que s'épanouit l'artiste. Bon, en tout cas, il y a toute une série de répliques tout à coup qu'on se balance par la tête les uns les autres, puis on sort grand, on dit ouais, ça prend un sens différent. Donc, c'est cette idée-là de la morale et ce concept-là de la censure qui découle de cette morale-là. La pièce résonne différemment, ça c'est sûr. On ne s'est pas forcé pour la faire résonner comme ça c'est sûr.
Tu parlais du refus global. Si on fait un saut aussi aux années 90, Doug Wright, c'était en opposition à une pression gouvernementale là, en 2018.
Ouais.
Envers quoi ou contre quoi doit-on se rebeller ou faire changer les choses?
Oui, ben c'est ça. On est dans un drôle, de sandwich. On est vraiment coincé entre l'extrême droite et l'extrême gauche en ce moment. Les artistes, on semble pas être aimés ni d'un côté ni de l'autre. On est en sandwich. Bon, pourtant, la plupart des artistes sont plutôt gauchisants, mais comme ils ne se plient pas au dogme de l'extrême gauche, tout à coup, ils sont rejetés. Donc, on ne peut pas se réfugier dans l'extrême droite. Ce n'est pas mieux. Et ce qui fait que je pense qu'en ce moment, on est dans une période, surtout dans les pays dits libéraux, démocratiques, tout ça, où les artistes sont un peu indolents. Hein? On ne savent pas trop, ne prennent pas position, ne savent pas quoi penser. D'ailleurs, cet été, c'était ça aussi la chose qui était un peu particulière, c'est que il y a beaucoup d'artistes qui ne se sont pas prononcés et qui se sont fait traiter de lâches. Mais moi, je ne trouve pas du tout. J'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose, je ne serais pas prononcé. Ouais. Et moi, je me rapporte à quand Wajdi Mouawad avait présenté sa pièce, voulait présenter sa pièce, en fait, au TNM avec Bernard Cantat et tout ça, puis ça avait fait tout un tollé et tout ça, puis moi, j'avais entendu des gens faire des déclarations épouvantables, et moi, j'avais une opinion très ferme là-dessus. J'étais pour Wajdi, j'étais pour ses choix et tout ça, mais évidemment, j'étais bien trop frileux, puis j'ai pas pris parti, je suis pas embarqué dans le débat, je suis pas allé à tout le monde en parle, c'est ce que je pense. Je suis resté un peu parce que, bon, j'avais besoin de réfléchir. Ouais. Bon. Alors moi aussi, je suis devenu une espèce d'artiste un peu indolent, tu sais. Et ça, je me rends compte après cet été, mais je peux plus l'être, hein, je suis obligé de le dire. Mais j'ai comme l'impression qu'on est dans une espèce de redéfinition de à quoi sert l'art et dans cette question-là, à quoi sert le théâtre? Parce que le théâtre est coupable de plein de choses. Le théâtre n'a plus le droit de faire... C'est la plus grande victime, le théâtre, en ce moment, de toute cette rectitude politique-là. C'est que, semble-t-il, qu'on peut chanter les chansons qu'on veut des esclaves noirs, n'importe qui peut les chanter, mais on ne peut pas les incarner. On ne peut pas faire semblant sur scène qu'on est quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la définition du théâtre, c'est ça. C'est de faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre. C'est de comprendre l'autre en prenant sa place. C'est créant un miroir pour l'autre, qui se regarde, mais avec un prisme différent, parce que c'est pas nécessairement quelqu'un de son groupe ou de sa secte ou de sa faction ou de son genre qui le joue. Alors, ça donne lieu à toute une espèce de... C'est pas tout à fait de la censure, mais c'est pas loin de la censure. C'est que ça handicape le théâtre. Tout à coup, le théâtre est obligé d'engager une personne d'une certaine race ou d'une certaine communauté pour jouer tel rôle. Il est aussi obligé de prendre quelqu'un qui ne ferait pas partie de ça parce qu'il faut encourager, il faut que les minorités soient plus visibles. Alors moi, je suis d'accord avec tous ces concepts-là, mais quand vient-on les appliquer au théâtre, tout à coup, on limite le théâtre à un lieu d'embauche, mais c'est plus que ça, c'est un lieu de poésie où on peut faire des choses étranges, des castings poétiques qui disent des choses, qui ont des choses à dire, qui sont pas comme des castings de cinéma, pardon, ou des castings de télévision. qui sont si on veut, la télévision et le cinéma, ce que le cinéma est devenu, impose un réalisme. Alors moi, je reviens du Brésil, où il y avait un biopic qui se tournait là, sur la vie d'une chanteuse noire brésilienne, très importante, qui est décédée, je pense, au début des années 60, quelque chose comme ça. Alors, on a décidé de faire son biopic. Et l'actrice qu'on avait choisie pour... qui est une très grande actrice, paraît-il, moi je la connais pas, et qui chante très très bien, pour l'incarner, ils sont obligés d'annuler le tournage parce qu'elle n'était pas assez noire. Ça, c'est le débat qu'il y a au Brésil. Alors, eux, ils sont pris avec l'espèce... Ils vivent ça différemment. Mm-hmm. Si on veut, les minorités visibles, et encore, qu'est-ce qui est une minorité au Brésil? Parce que...
Ouais, les tensions raciales, c'est une autre histoire au Brésil.
C'est une autre histoire, c'est autre chose. Il faut toujours comprendre le contexte du pays, là, quand on commente ces choses-là. Et j'ai l'impression que dans le cas de... Bon, ce qui s'est passé cet été au Québec, beaucoup de gens ont commenté sans connaître le Québec. Beaucoup de gens à l'extérieur sans connaître quelle était la réalité si on veut, de nos relations avec les minorités visibles, avec les groupes autochtones, tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu alors, beaucoup de gens se sont prononcés qui n'ont pas dû se prononcer parce qu'ils vraiment ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et beaucoup de gens qui auraient dû se prononcer, mais qui, comme je disais tout à l'heure, sont devenus un peu indolents dans tout ça. On ne sait pas trop comment se placer. Et on prend pour les deux quand il y a des conflits maintenant au Québec. Hein, on prend pour les deux.
Mais on a peur de quoi? Si on ne veut pas s'exprimer, est-ce qu'on a peur du jugement? Est-ce que c'est parce que c'est trop rapide? Est-ce qu'on a trop peu de tribunes pour expliquer en profondeur ses points de vue?
Oui, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que les artistes ne sont pas des chroniqueurs, les artistes ne sont pas des débatteurs.
Mais on ne veut pas qu'ils deviennent non plus.
Il y en a qui le sont et qui le font très bien, mais la plupart, on s'exprime par l'art, nous. C'est ce qu'on a à dire. En tout cas, moi, c'est sur scène là, que ce que j'ai à dire, mon point de vue, il est là. Puis venez et critiquez-le. Puis bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois ou j'essaierai de tenir compte de votre critique. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va aller comme on a entendu tout l'été, là, sur des plateformes, puis débattre. Je ne suis pas un débatteur. C'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se dit. Je ne sais pas. Je trouve que l'artiste n'a pas à justifier ce qu'il fait.
Non, c'est sûr.
Par des débats. Mais c'est pour ça, moi, les mots de metteur en scène dans des programmes, ça me tue tout le temps. Mais je dis, mais oui, mais ce que j'ai à dire, il est dans le spectacle.
Il est dans le spectacle déjà.
À moins que mon spectacle soit tellement pas clair que le mot du metteur en scène va aider à éclaircir. Mais sinon, là, je trouve toujours ça un petit peu... étrange, cette chose-là.
Mais est-ce que c'est dû à une incompréhension de la création théâtrale, tout ce qui se passe? Est-ce que les commentateurs manquent d'outils pour apprécier ou pour saisir les créations qu'on propose en public?
Je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a une grande ignorance des deux, de part et d'autre, quel est le métier d'artiste, qu'est-ce que ça... c'est assez intéressant, il y a... en Europe, bon, quand ils ont décidé de faire la Nouvelle Europe, ils ont créé, je pense il y a 14 ou 15 ans, un institut de surveillance, j'ai pas le bon titre là, de cet institut-là, mais ils surveillent les droits et les libertés des artistes. Bon. Alors, depuis 14 ans, ils s'assurent que les artistes dans les pays européens ne soient pas censurés, ne soient pas empêchés de dire ce qu'ils ont à dire, même quand il y a la controverse et tout ça. Bon, alors, et là, ils se plaignent qu'aller jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans, ils essayaient de contrer les forces réactionnaires. C'était beaucoup des gens de la droite qui essayaient d'empêcher les artistes de dire ou faire ce qu'ils faisaient. Et là, ils disent depuis 2-3 ans, c'est l'extrême-gauche. Alors, ils sont un petit peu... Là aussi, ils deviennent comme un peu indolents, un peu, ben là... Et ils définissent, c'est assez intéressant quand même, là, je veux dire, c'est un institut important qui défend les libertés, tout ça, et qui disent, l'artiste a le droit de créer la controverse. L'artiste, c'est même dans son devoir de la faire, la controverse, de remettre en question toutes les idéaux sociaux, tout ça. Il faut que ça reste... Le débat, il est là, il est dans l'art, il n'est pas nécessairement sur les tribunes, sur les plateformes radio, tout ça. Alors oui, ce débat-là a une valeur aussi, c'est pas dans les journaux nécessairement que ça se règle, ces choses-là. C'est vraiment dans les ateliers, dans les salles de répétition, sur scène, à l'écran.
Est-ce que ça peut faire en sorte que certains créateurs vont avoir des réserves ou vont se limiter dans leur expression à cause de tout ça? Parce que On dit que c'est dans la nature de l'artiste de traverser la ligne. Est-ce que ça prend plus de courage maintenant, en 2018, de traverser cette ligne?
Oui. Ariane Mouchkine disait une affaire assez intéressante dans une entrevue qu'elle a accordée dans Télérama il y a 2 ou 3 semaines. Elle dit la pire affaire que tu peux te faire accuser, c'est d'être raciste. Hein? C'est une arme énorme que les gens ont dans la main de décider de dire, ah, t'es raciste. Parce que t'as peur, c'est la pire affaire que tu peux te faire traiter, c'est d'être raciste. Et ils le savent et ils en usent. Et c'est ça. Et à un moment donné, là, il faut se rebeller. Là, les artistes vont dire, ben là, attends un peu, là. Là non, là, tu ne décideras pas du jour au lendemain que je suis un raciste, tu ne me connais pas d'abord. Et tu ne peux pas juger par quelques œuvres que tu as vues que je suis un raciste ou que je suis réactionnaire. Alors, c'est ça. Donc, il y a cette peur-là. L'artiste aussi, son métier, bon, il n'est pas très bien rémunéré. Ça demande un courage énorme d'être artiste aujourd'hui. Les gens vivent souvent sous le seuil de pauvreté. On ne parle pas des artistes bien en vue ou des gens bien nantis, là, ou des gens qui ont des carrières extraordinaires. Ça, c'est la minorité. Mm-hmm. Les artistes, de façon générale, ce qu'ils ont échafaudé comme réalité économique est assez précaire. Alors, c'est sûr que tu ne veux pas te faire... Tu ne veux pas que ta petite maison en carton que tu t'es construit se fasse emporter par un ouragan réactionnaire ou un ouragan d'extrême gauche. Hein? Tu veux pas te faire taxer de quoi que ce soit, parce qu'en plus, maintenant, les gouvernements te financent. Ils le disent pas officiellement, mais il y a des règles maintenant. Hein? On va te donner l'argent si tu respectes ce protocole et ces valeurs canadiennes et tout ça. Mm-hmm. Alors, depuis quand le gouvernement décide du contenu? Mm-hmm. Alors oui, on se fait juger par nos pairs, des gens qui... Oui, d'accord, mais ils se font dire, avant de nous juger, il faut que les demandes répondent à certaines valeurs, certains protocoles, etc. Et c'est là que ça devient un peu dangereux. Ça devient, si on pousse ça à l'extrême, c'est l'Union soviétique qui dit, ben maintenant, il y a une culture officielle. Mm-hmm. Et c'est celle-ci, puis nous, on pense que c'est ça qui est bien pour vous autres. Alors, si c'est ça, ben ça vaut pas la peine d'être artiste, là.
Donc, comme si le Conseil des arts du Canada véhiculait ou souhaitait...
Moi, je trouve que c'est pas clair, la position du Conseil des arts du Canada.
Est-ce qu'il faudrait que ce soit plus clair? Est-ce qu'on devrait avoir plus de transparence dans ces décisions-là?
Pas nécessairement, puis on n'a pas à révéler non plus l'identité des gens qui décident de nos... si on est subventionné ou pas, mais c'est quand même assez étonnant que dans un pays démocratique... Tout à coup, il y a une ligne de conduite liée à des... Il y a des choses comme, par exemple... J'ai pas encore mon théâtre, là, je vais peut-être l'avoir dans un an, mais les compagnies théâtrales au Québec, ils ont reçu... Je ne me souviens plus c'est quoi les pourcentages, mais il faut que tu emploies... tu as ta subvention si tu emploies un certain nombre d'acteurs ou d'intervenants, des minorités, tout ça. Alors oui, moi, je suis entièrement d'accord, il faut le faire. Sauf que le pourcentage est le même à Montréal qu'à Québec, qu'à Rimouski, qu'à Jonquière. C'est pas vrai, là. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas avoir une espèce de grande couverture moralisatrice avec une nouvelle morale, politically correct, puis dire, voici, maintenant, c'est ça. C'est ça, c'est eux que vous employez. Tu fais, oui, sauf que ça dépend où. Ça dépend des régions. Toutes les régions ont des réalités et des relations...
Des réalités démographiques différentes.
Absolument. Oui. Donc, et ça, on dirait qu'ils n'en tiennent pas compte. C'est une espèce de grand parapluie, là, qu'on met par-dessus le Canada, puis on dit votre réalité est la même que à Vancouver, Burnaby. Mais là, désolé, là, on n'a pas la même démographie, c'est pas la même chose. Donc, alors, moi, juste de dire ce que je dis là, il y a plein de gens qui vont sauter là-dessus. Ah ouais. Ils peuvent sauter là-dessus et dire « Ah, c'est un raciste, c'est un xénophobe. » Au contraire, l'œuvre de ma vie, c'est d'essayer de faire la preuve du contraire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'époque à laquelle on vit, puis il faut... Faut accepter.
Mais est-ce que tu as dû passer par-dessus... j'imagine que oui, là, mais c'est cette étiquette de raciste-là dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu sens que tu la portes? Là?
Non, je pense pas que les gens pensent que je suis raciste, sauf que, par exemple, au spectacle Slave, qui a été annulé, le soir de la première, il y avait des groupes à l'extérieur qui hurlaient dans les oreilles des spectateurs qui rentraient, qui leur disaient « T'es raciste, ça vient qu'un mot dit raciste, t'es un raciste. » Les gens, puis même des gens de la communauté haïtienne qui venaient voir le spectacle, se faisaient crier qu'ils étaient racistes. Là. Je veux dire, quand même une limite par des militants blancs. Là. C'est quand même... Alors, ça, je dis, c'est une arme, ça, de traiter l'autre de raciste. C'est horrible d'utiliser ça. Utilisez-le. Oui, il faut l'utiliser, cette arme-là, contre les vrais racistes. Ouais, ouais, ouais. Contre les gens qui pas contre des artistes qui ont peut-être fait des maladresses. Peut-être qu'effectivement, je sais pas, moi, je l'ai fait plusieurs fois, là, mon examen de conscience, pour essayer de voir, bien, y a-t-il quelque chose qui a blessé? Y a-t-il une maladresse? Y a-t-il une naïveté? Oui, il faut le faire, il faut faire cet exercice-là. Mais si on est pour traiter l'autre de raciste, qu'on traite les vraies personnes racistes, qu'on ait le courage de trouver les vrais racistes et de les accuser, eux, ce qui ne semble pas être le cas.
Il y a une des phrases dans Quills qui m'a particulièrement marqué aussi tout à l'heure. On parle de censure, mais aussi de la réponse du public à une œuvre. Ouais. On dit que la réponse est un peu incontrôlable. Ça questionne un peu cette idée-là de production et de réception. Et cette phrase qui ressort, c'est toujours dans l'adversité que s'épanouit l'artiste.
Mais ça, c'est intéressant parce que quand on a décidé de monter Quills, ce qu'on trouvait intéressant dans le débat de Quills, c'est que toute la première partie, avant, je ne vais pas vendre les punchs, il se passe quelque chose de quand même assez grave, à peu près aux deux tiers du spectacle. Bon. Alors, aller jusqu'à ce moment-là, on est plutôt avec la pensée du Marquis de Sade. On prend pour lui. C'était comme un grand sociologue. Il a écrit, à part de la pornographie, il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études.
C'est un philosophe aussi.
Un grand philosophe. Je disais, bon, puis il n'y aurait pas eu tout le mouvement romantique s'il n'y avait pas eu le Marquis de Sade. Alors, donc, on prend pour lui. Il a entièrement raison dans tout ce qu'il dit et tout ça. Alors, tu fais oui, la liberté de l'artiste, il doit dire ce qu'il veut quand il veut, mais il y a une responsabilité qui vient avec ça. Et c'est pourquoi, moi, je trouve que la pièce, elle est forte, parce qu'elle ne fait pas juste dire oui, liberté, liberté, liberté. Elle dit aussi à l'artiste, il faut que tu te responsabilises, par exemple, de ça. Il faut que tu sois conséquent, il faut que tu acceptes les conséquences de ce que tu vas dire, de ce que tu vas démontrer, de ce que tu vas évoquer. Et c'est ça qui arrive au Marquis de Sade, et là, le Marquis de Sade se fait prendre en faux. À un moment donné, il se fait confronter à ce niveau-là et effectivement, il est coupable de d'une chose qui se passe et il en subit les conséquences. Et c'est ça que je trouve qui est très équilibré dans la pièce, parce que ça ne veut pas juste faire « oui, liberté des artistes, des écrivains, oui, liberté d'expression, oui », mais ça vient avec une responsabilité. Il ne faut pas la balayer de la main, cette responsabilité-là. Et c'est ça aussi la chose qui est admirable du Marquis de Sade, mais que dans la bonne société bien pensante, on ne comprend pas que quelqu'un veut passer ces trois marches-là, les marches de la folie. Et c'est ce qu'il fait. Alors, il fait oui, il faut aller plus loin, il faut tout faire sans compromis, mais il y a un moment donné, il faut accepter qu'on bascule dans la folie. Sinon, on touche pas on comprend pas bien de quoi est fait l'humain. Et c'est ça qui est vertigineux dans le Marquis de Sade. C'est ça qui est vertigineux à jouer quand tu joues le Marquis de Sade aussi, parce que tu sais qu'il va à une place puis t'amène à faire des choses que tu n'aurais jamais fait avant. Ou en tout cas, il t'amène à un endroit très sacrilège, là, si on veut. Il y a une affaire très, très...
Mais en même temps, c'est un personnage qui semble te plaire, que
oui, absolument,
tu aimes incarner.
Absolument, mais parce que moi, j'ai toujours été d'accord avec ça, qu'il y a cette... Moi, tous les grands artistes que je connais, c'est pour ça que... C'est pas de la fausse humilité, mais moi, je me considère pas un grand artiste, parce que moi, j'en connais de vrais génies, là. J'en ai côtoyé une couple, et il y a une folie. Il y a un 10% chez ces gens-là là, qui c'est de la folie. Là. C'est vraiment de la folie. Et que, bon, c'est la folie tolérable, c'est de la folie qui fait pas mal à personne, qui blesse personne, mais c'est de la folie qui est difficile à gérer parfois. Mais les vrais génies, les vraies personnes, ils ont osé ouvrir cette porte-là, ils sont entrés là, et ça les hante dans leur vie. J'en ai connu beaucoup, là. J'ai côtoyé des gens qui sont vraiment des génies. Et tu le sens, tu sens que ces gens-là sont absolument conscients d'une perspicacité, tout ça, mais pour arriver à ce qu'ils ont réussi à créer, à révolutionner les choses, à changer les choses, il a fallu qu'ils basculent un peu dans la folie. Alors, moi, j'ai fait un spectacle de danse avec Sylvie Guillem, et les costumes étaient faits par Alexander McQueen. Alors, j'ai eu la chance, moi, dans les derniers mois de sa vie, hein, il a travaillé pour nous. Bon, il s'est suicidé 6 mois après. C'était pas à cause de nous, j'espère, mais bon. Et on sentait, quand on travaillait avec lui, qu'on était devant un vrai génie, parce qu'il était à 90% un être illuminé, lumineux, créatif, inspiré, et 10%, il y avait quelque chose là, qui était pas de ce monde, qui était un peu fou. Et c'est des vies intenables. Et ça, ce sont de grands... Moi, je les admire, et moi, j'accepte ça d'eux, et je me dis, bon, ben c'est ça. Quelqu'un qui fait un autre métier, plus raisonné, plus sécure, plus raisonnable, ne comprend pas mon admiration pour des gens comme ça, comprend pas que les artistes basculent dans la folie ou dans la drogue ou dans le... Mais il y a un moment donné, pour faire avancer les choses, il faut basculer un peu dans la folie. Moi, je suis trop frileux pour ça. Je suis trop heureux pour ça.
T'as pas, cette frontière-là n'a jamais été franchie. Il n'y a pas un stade dans une recherche, dans une création.
Non, parce que moi, très jeune, j'ai été traumatisé par ça. Comme tout le monde fumait de la drogue, puis tout le monde était là-dedans. Moi, j'avais 14 ans, puis tout ça. Puis bon, la première fois que j'ai fumé un gros joint de hash Afghanistan qui avait traité à l'opium, une affaire de fou, tout ça. Une fois dans ma vie, j'ai fait ça, puis j'ai manqué de devenir fou. Là. Ça m'a pris des années à me remettre de ce joint-là. Donc, j'étais chanceux parce que ça avait été une belle expérience. Probablement que, bon, comme tout le monde, je me serais mis à consommer la drogue et peut-être de façon plus... des drogues plus hard. Et bon, dans le métier que je fais, Dieu sait qu'on est constamment, si on veut, exposé à la drogue. Bon. Et moi, j'ai été assez chanceux pour avoir fait le bad trip qu'il fallait faire à 14 ans pour pas tomber là-dedans et pas trouver une source d'inspiration ou un refuge là-dedans, ça, c'est sûr. Mais ça m'a traumatisé assez que j'ai pas envie d'aller dans la folie.
Ben
j'ai
ouais.
pas envie de traverser la ligne là, qui, paraît-il, faut traverser si on veut vraiment changer les choses.
Il y a aussi un aspect solitaire dans ce personnage-là du Marquis de Sade dans Quills. Ouais. Est-ce que ça t'interpellait, ça aussi?
Oui, parce que ben, moi, je suis quelqu'un qui fait des spectacles solo. Ouais. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un... Bon, évidemment, ça, c'est après plusieurs études de mon travail à travers les années, qu'un spectacle solo, un homme seul sur scène, même si le spectacle a été élaboré par un groupe de gens, là, parce que c'est jamais vraiment un spectacle solo. Hein,
mais non, il y a toute une équipe derrière.
Toute une équipe derrière, tout ça. Sauf que le spectateur, il voit une personne tout seul sur scène se défendre ou raconter son truc. Et donc, nécessairement, c'est toujours des spectacles sur la solitude, sur le sentiment de solitude. Ça veut dire que tu te sens pas comme les autres, tu te sens isolé, tu te sens soit parce que tu es persécuté, soit parce que, bon, tu as une sorte de raison là, de se sentir seul. Mais c'est souvent les spectacles sur la solitude, ça, ce sentiment de solitude, qui est un sentiment que moi j'ai vécu beaucoup quand j'étais jeune, là, aller jusqu'à ce que je finisse mon conservatoire, peut-être, le monde ça. Et bon, je sens plus maintenant ce sentiment-là, mais je l'ai senti longtemps, ce qui fait que ça revient beaucoup dans mon travail. Et c'est sûr que de jouer le Marquis de Sade, qui est une espèce d'extraterrestre
incompris,
isolé, qui est dans une maison de fous, puis qui est même pas fou. C'est à cause de la folie de son écriture et ses fantasmes qu'on décide de lui qui est fou. Mais même là, il fait même pas partie. Il n'est même pas un vrai fou. Il peut même pas s'identifier aux autres. Alors, c'est ça qui est intéressant du Marquis, c'est que ça devient un spectacle solo d'une certaine façon. Bon, c'est épouvantable de dire un spectacle solo parce que le spectacle ne tiendrait pas sans la qualité d'interprétation des autres personnages, mais ça tourne beaucoup autour d'un personnage qui est isolé, seul, et qu'on essaie d'isoler de plus en plus dans le spectacle. On essaie, en le censurant, on l'isole de plus en plus.
Ça a été quoi ta première rencontre avec le Marquis de Sade?
C'était Philosophie dans le boudoir. Quand j'étais... Moi, je suis rentré au conservatoire très jeune, à 17 ans. Ben, j'ai triché pour avoir 18 ans, mais j'ai fait semblant, j'avais 18 ans, mais j'avais 17 ans. Et j'étais beaucoup trop jeune pour rentrer au conservatoire. Je disais plein d'affaires que j'avais pas vues, que j'avais pas vécues, que j'avais pas lues, bon, tout ça. Et à l'époque, il y avait, à Québec et à Montréal, il y avait le cinéma Outremont, puis le cinéma Cartier à Québec, qui présentait une programmation de cinéma extraordinaire. C'était une semaine, Ken Russell, puis ça, il y avait une semaine, Ingmar Bergman, puis c'est bon, c'était... une époque fabuleuse qui n'existe plus, malheureusement. Et c'était ça, c'était toujours des espèces de festivals très courus de cinéma. Et je me souviens que j'avais vu un preview pour Philosophie dans le boudoir. Je ne me souviens plus qui avait réalisé ça ou je ne sais pas quoi. Et ça m'avait énormément troublé, mais excité énormément. Et je me disais, voyons, on en est là à pouvoir faire des films comme ça et à montrer des choses comme ça. Et quelqu'un me dit, non, c'est basé sur le Marquis de Sade qui, lui, a écrit un livre qui s'appelle Philosophie dans le boudoir. Et je me souviens, j'ai trouvé le livre et j'avais commencé à le lire et c'était extraordinaire parce que c'était tout ce qu'il y a de plus extraordinaire chez le Marquis de Sade. Il y a ce grand philosophe, cette grande érudition, cette réflexion, un grand intellectuel, tout ça. Et cette débauche à plus soif, là, je veux dire, c'est une description pas juste de position, mais de choses qui dépassent l'entendement des fois. Et je me disais, mais mon Dieu, c'est l'extrême de ce qui se passe dans la créativité de quelqu'un. Là, quelqu'un qui est très créatif, là, il va aux deux extrêmes. Et dans ce livre-là, il y avait ça. Et après ça, ben là, il y a eu les... je ne me souviens plus, 102 jours, 101 jours
De Sodome.
Salo.
Oui, c'est... Coudonc. C'est Salo ou les 120 journées de Sodome.
Voilà.
On avait raison, les deux.
C'est ça, c'est le même film, finalement. C'est ça. Donc ce qui me troublait, ce qui m'intéressait, c'est que tu pouvais être un obsédé sexuel, mais être un grand artiste aussi, et un grand philosophe, et être quelqu'un de très noble. Et ça me bouleversait beaucoup chez le Marquis de Sade, malgré que, bon, on lui a interdit de vivre sa vie comme ça, mais il y avait cette espèce de célébration, tout à coup, deux siècles plus tard, d'un génie, de quelqu'un qui était d'une grande perspicacité, grande sensibilité, mais qui était aussi un grand pornographe. Moi, j'ai vu une expo assez intéressante sur le Marquis de Sade qui s'appelait « Affronter le soleil » ou c'est une citation de Sade. Là. pas « Affronter le soleil », mais en fait, « Confronter le soleil ». Bon. Et c'était au musée du Quai d'Orsay, à Paris, et c'était fantastique parce que ça faisait la preuve que s'il n'y avait pas eu le Marquis de Sade, il n'y aurait pas eu le mouvement romantique du 19e siècle. Il n'y aurait pas eu Victor Hugo. Il n'y aurait pas eu Eugène Delacroix. Il n'y aurait pas eu... Bon, alors oui, il y aurait eu tous ces gens-là, sûrement, mais pas inspirés de la même façon, et ils n'auraient pas eu la liberté ou la permission d'écrire ce qu'ils ont écrit dans la façon qu'ils l'ont écrit. Ce qui a donné lieu au grand mouvement romantique, parce que les gens, souvent, bon, on parle du mouvement romantique, mais les gens ne savent pas vraiment c'est quoi, mais c'est bon, c'est après la Révolution française, tout à coup, en France, beaucoup, en Allemagne aussi, parce que bon, c'est le même mouvement, mais pas exprimé de la même façon. Les mouvements romantiques, eux, tout à coup, cessent de s'inspirer d'une mythologie grecque ou judéo-chrétienne ou tout ça, et tout à coup,
on regarde vers le bas
et on regarde comment les choses fonctionnent. On regarde les animaux, on regarde la nature, mm-hmm. on regarde les éléments, on regarde la météo. Ce sont tous des sources d'inspiration, des forces. L'homme s'inspire de ça et écrit des poèmes, de la musique, révolutionne comment on gère la société. Bon, le mouvement romantique, quand même, ça... Et ça s'inspire de l'homme, et même ça va jusqu'au viscère d'un animal. Ça va très loin, et on s'inspire de choses que normalement auraient été considérées soit vulgaires ou interdites, ou pas nobles, ou pas divines. Et c'est ça, le Marquis de Sade, il arrive, et puis il casse ça. Il dit, mais là, il faut arrêter là, le divin, là, tout ça, là. Il était athée, bon, c'est sûr que... Et il dit, il faut regarder vers le bas, et faut que l'homme s'inspire de ses impulsions, c'est-à-dire que la nature, il faut s'inspirer de la nature, et la nature, elle dit à l'homme, ben là, tu sens les impulsions dans le bas de ton ventre, là, vas-y, écoute ça, écoute la nature. Bon, alors, évidemment, il s'en sert pour écrire plusieurs romans et plusieurs essais pornographiques, mais dans la même source d'inspiration, il y a le mouvement romantique. Il y a cette idée que faut peindre la force qu'il y a dans les rivières, les montagnes, les ouragans, l'homme, les bêtes en rut, tout ça, que ça a une énergie, une force, des solutions. C'est ça, le mouvement romantique. Et ce qui a libéré ça, ça serait, bon, selon la théorie de cette expo-là, c'est justement le Marquis de Sade. Et s'il n'y avait pas eu le Marquis de Sade, probablement que plusieurs personnes n'auraient pas osé s'aventurer dans cette nouvelle pensée, parce qu'ils étaient en réaction aussi à cette nouvelle morale qui venait avec Napoléon.
Mm-hmm. Est-ce que la perception est encore erronée de l'œuvre du Marquis de Sade? Parce que on parle de l'érotisme, on mm-hmm. parle de ce qui est ouais. osé dans son travail, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi ouais. un sociologue, un philosophe.
Ouais. Ben, c'est-à-dire que dans le monde francophone, les gens sont plus au fait, je dirais, parce que c'est plus proche de nous, c'est la culture française. Les Français sont très au fait de ça. Ils l'appellent encore le divin marquis. Les Français vivent bien avec cette dichotomie ou ce paradoxe du personnage. Nous, on a encore ici au Québec, je pense, une éducation à faire là, par rapport à ça. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire le spectacle. Les gens posent beaucoup de questions d'ailleurs là-dessus. On n'avait jamais pensé que le Marquis de Sade pouvait tenir des discours philosophiques ou politiques. Quand il est d'abord et avant tout un sociologue, un politicologue et tout ça. Alors oui, il y a une éducation à faire, mais il y a beaucoup dans le monde anglophone, surtout, et c'est pourquoi Doug Wright se permet tant de liberté avec le personnage et l'histoire du Marquis de Sade.
Parce que ce ne sont pas nécessairement des citations de ses histoires à lui, non, c'est inspiré.
Inspiré, c'est ça, de quelque chose qui s'appelait le moribond et l'abbé. Tiens, pur, bon. Encore une fois, les titres qui m'échappent. C'est ça, vieillir. Mais les dialogues qui sont inspirés de ça, beaucoup, c'est sûr. Mais ceci dit, dans le monde anglophone, les gens sont moins au fait de ce côté-là du Marquis de Sade. Les gens n'ont retenu beaucoup que le mot sadique ou sadisme, l'associant à quelqu'un qui fait mal à quelqu'un d'autre. Quand on connaît bien le Marquis, il était beaucoup plus maso.
Il était
beaucoup plus maso que Sado. C'est un peu comme nommer l'aéroport Pierre-Luc Trudeau à Montréal, à Dorval, qui était un peu... Tout le monde s'est dit, oui, mais il détestait cet aéroport-là. Pourquoi vous là? Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, la même chose, c'est le Marquis de Sade, qu'il ait donné son nom au sadisme, c'est pas... Le sadisme aurait dû être une définition de quelqu'un qui aime se faire mal, mm-hmm. et pas le contraire.
Mais par rapport à la perception culturelle ou dans les diverses langues, c'est quand même surprenant que cette pièce-là, à moins que je me trompe, mais il n'y avait pas de traduction en français avant
non.
que...
Non, puis c'est pas étonnant, parce que justement, nous, on a cherché longtemps la traduction française de ça, on disait, elle doit exister, c'est une pièce finalement qui a été jouée partout dans le monde.
C'est ça.
Mais c'était traduit dans la plupart des langues, à part le français, et on s'est dit, c'est probablement ça l'obstacle, probablement que les gens, les Français qui aimaient la pièce ont eu une certaine pudeur à vouloir l'adapter à la langue française parce que on connaît trop le Marquis. On aurait l'impression de le trahir ou de le... Et ça prend peut-être effectivement un Québécois comme Jean-Pierre Coutier, mm-hmm. qui lui tout à coup dit non, ben moi j'ai pas tout ce bagage-là avec le Marquis, donc je vais me permettre de faire une traduction française. Donc c'est la seule traduction française en fait à notre connaissance de Quills.
Quand on parlait du contexte tout à l'heure, est-ce que ça a demandé une préparation particulière, sachant que bon, tout ce qui s'est passé cet été, même avec le mouvement MeToo mm-hmm. Dans la dernière année, ouais. avant de remonter sur les planches pour Quills, est-ce qu'il y avait une appréhension?
Oui, il y avait une appréhension, ça c'est sûr. D'abord, le mouvement hashtag MeToo, en janvier, au début février, on l'a joué à Paris.
Ouais.
Et entre-temps, il y avait eu tout ce mouvement-là. Je ne sais pas si on avait joué ici, à ce moment-là, s'il n'y aurait pas eu une réaction à ça. Parce que, bon, quand même, c'est la culture du viol et toutes ces choses-là, je veux dire, on ne joue pas avec ça. Et là, maintenant, les gens sont tellement sur les dents par rapport à ça, je ne sais pas si ça aurait aussi bien passé si on l'avait créé à Québec et à Montréal, d'à peu près dans les mêmes dates. Mm-hmm. Bon, maintenant, ça a changé, ça a évolué, les choses, la poussière a retombé un petit peu. Mais il y a une chose qu'il faut dire de Quills par rapport à hashtag MeToo, c'est que les femmes aiment beaucoup le spectacle, et une des choses qu'ils aiment dans le spectacle, c'est que les personnages de femmes, il y a deux personnages féminins, hein, ce sont des bombes, ce sont des femmes extraordinaires, solides, qui choisissent leur destin, qui ne se font pas imposer leur destin et qui rabrouent, entre autres le Marquis de Sade. Le Marquis mm-hmm. de Sade s'essaye sur la jeune Lavandière et être le bardasse. Et c'est pourquoi ils s'aiment. C'est pourquoi il y a une espèce d'amour, une histoire d'amour pudique, virginale qui s'installe entre les deux personnages. Parce qu'elle est très forte. C'est un personnage très, très, très fort. Et la femme du Marquis de Sade, qui est une manipulatrice épouvantable, mais qui est quand même une femme très forte, très résolue, qui a énormément de pouvoir et qui ne se présente absolument pas comme une victime. Et ça, je sais que beaucoup d'actrices, en tout cas, me disent, écoute, ça fait tellement longtemps qu'on cherche au théâtre des rôles de personnages d'époque qui ne sont pas des victimes, qui ne sont pas écrasés par le machisme, la culture. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être ça qui fait que la pièce passe la rampe du hashtag MeToo. En tout cas, en France, ça avait très bien passé. Bon, j'ai comme l'impression que si les gens... Et c'est pour ça que je dis, on a beaucoup... Les rires du spectacle, c'est beaucoup des rires du public féminin. Les femmes aiment beaucoup... C'est finalement aussi parce que le Marquis de Sade est très efféminé, quelque part, dans sa sensibilité. C'est pour ça que c'est drôle de l'associer au sadisme, parce qu'il est tout sauf un prédateur masculin. C'est un homme même très, très vulnérable.
Parce que cette relation-là nous montre une facette vraiment différente de ce qu'on imagine du Marquis de Sade.
Oui, c'est sûr. Puis c'est ça. C'est pour ça que le vrai personnage du Marquis de Sade, comment je pourrais dire, c'était quelqu'un qui aimait la vie. C'est ça que je trouve remarquable. C'est quelqu'un qui a été emprisonné, qui aimait observer les choses, qui aimait observer bon, les relations entre les êtres humains, mais qui aimait observer les grands, la mouvance des changements dans la société. Alors lui, il a été, avant la Révolution française, c'était un personnage assez problématique qu'on avait enfermé dans la prison de la Madelonnette, puis bon, bien d'autres... Bien d'autres prisons. Et tout à coup, il se retrouve à la Bastille parce qu'il est considéré par la bourgeoisie comme quelqu'un à qui on ne veut plus avoir affaire. Puis bon. Et il observe tout ça, lui. Et à un moment donné, il n'y a que 6 prisonniers à la Bastille. Et parce que les forces royales décident de se servir de la Bastille pour stocker l'armement. Si on veut. Donc, ils se retrouvent quasiment sur un baril de poudre. Ils sont à peu près 6 prisonniers qui sont là. Puis lui, il est là parce que, bon, il est fou, puis il est indécent, puis tout ça. Et tout à coup, la Bastille est prise par la plèbe. Hein? Alors, il est libéré par la plèbe. Et là, la plèbe décide qu'il a été une victime du système bourgeois. Et là, on lui accorde toutes les faveurs qu'il veut, puis la liberté qu'il veut. Pourtant, c'est un bourgeois. C'est quelqu'un qui aurait dû être guillotiné en premier, selon les... Mais au contraire, on le récompense, puis tout ça. Et ensuite, on ne sait plus trop quoi faire avec lui. Et quand Napoléon revient, là, il fait, non, lui, là, sa pornographie, là, on ne veut plus voir ça. Et on essaie de nettoyer la société. On essaie de ramener la France à une morale qu'on va décider, nous autres, ça va être quoi, tout ça. Et là, on l'interne dans une maison pour les fous, puis on tente de le faire taire. Alors, lui, il a été ballotté d'une prison à l'autre, d'un institut psychiatrique à un autre. Et il a toujours... parce qu'il y avait une ironie... peut-être noir, mais une grande ironie pour être capable de survivre, tout ça. Il a été ballotté par l'histoire, par les mouvements politiques, par les changements de système, les changements de régime. Et en plus, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, il étudiait la médecine, il étudiait l'histoire, et bon, il était quand même, on lui donnait ce qu'il voulait. On disait, ben, tant qu'il lit, il écrit pas. Mais il continue à écrire plus que jamais.
Mais Robert Lepage, j'aurais aimé en parler encore
des
heures, mais le temps file. Merci, merci pour cette rencontre et cette visite à Ottawa.
C'est un grand plaisir. Merci.
Plus que du théâtre est une série de balados produites par le Théâtre français du Centre national des arts. Les émissions sont enregistrées au studio Hexagone du CNA. À la technique, Martin Jones. À la recherche, Guy Varin. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.
Ce balado du Centre national des arts a été enregistré à Ottawa par l'équipe des nouveaux médias du CNA. écrivez-nous à baladocna@gmail.com. Vos commentaires et vos questions sont pour nous très précieux. N'oubliez pas, consultez le site web baladocna.ca pour voir d'autres fascinants fichiers balado du CNA ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine.